qu'il a fait de grandes choses pour vous. Et pas seulement cette semaine, n'est-ce pas, sœur Eunie ? Tous les jours. Tous les jours, notre Seigneur fait des choses merveilleuses pour nous. Et même si parfois nous ne le sentons pas, mais nous sommes vivants. Et vous savez, avoir la vie, c'est une œuvre merveilleuse. Eh oui, parce que beaucoup n'ont pas ce même destin que nous, finalement, de se réveiller le matin et d'avoir le nouveau, ce souffle de vie nouveau en eux. Mais nous l'avons. Alors nous sommes vraiment heureux de pouvoir louer notre Seigneur pour ça. Et c'est pourquoi là, je vous invite à vous de tenir debout pour que nous puissions louer notre Seigneur pour le pardon qu'il y a en lui. Et rien que pour cela, en fait, je veux vraiment élever. Nous voulons élever la voix ensemble parce qu'un jour, notre Seigneur nous a sauvés. Nous a délivrés du fardeau de nos péchés, de toutes ces choses qui nous accablaient et qui nous empêchaient de nous tenir debout, de rester dans sa présence, de venir dans sa présence. Aujourd'hui, par Jésus-Christ, nous sommes libres. Alors acclamez votre Seigneur. Amen. Il est vrai, s'il est un grand Dieu et il nous a sauvés. Et nous voulons encore le louer parce qu'il nous a sauvés. Et nous savons aussi qu'il désire sauver la terre entière. Ô Seigneur, tu nous as sauvés avec tellement de force, tellement de puissance. Avec tellement d'amour, tu nous as sauvés.
Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur. L'espoir des nations.
Vaincu l'amour. Jésus-Christ, je renonce à ton sacrifice, tu t'es humilié jusqu'à la mort. Bien souvent, ce don de vie m'a bouleversé et j'en suis ému à nouveau. J'en suis ému à nouveau. À nouveau, je regarde la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je réponds ma vie.
Aujourd'hui,
tu règnes dans les lieux très hauts. Où devant moi, je m'inclinerai. À présent, émerveillé par ton salut, oui, mon cœur t'exalte à nouveau. Mon cœur t'exalte à nouveau. À nouveau, je
certains désirent dire merci à au Seigneur Jésus qu'il puisse ouvrir la bouche devant lui. Ce matin, en me réveillant, j'avais le prénom Déborah et donc dans la tête, mais il y a notre sœur qui a sa fille qui s'appelle Déborah. Moi, c'était notre Déborah que j'avais. Du coup, et c'était une prophétesse. Et voilà, donc. Je me suis rappelé de ce cantique qu'elle a publié en fait dans Juges 5 et lorsque l'Éternel lui a permis avec Barak de pouvoir délivrer Israël de la main des Cananéens. Et je me suis rendu compte que dans ce cantique qu'elle publie, en fait, elle dit, elle recommande de chanter, elle dit, je chanterai à l'Éternel, je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et vraiment, elle rend toute la gloire à l'Éternel dans son cantique. C'est vrai que parfois nous sommes avares lorsque le Seigneur nous a délivrés de certaines situations, ou même que voilà, nous disons pas, en fait, nous prions pas des louanges aussi, des chants comme à notre Seigneur. Et c'est vrai que souvent on se dit, mais on n'est pas capable de le faire. C'est vrai que le Seigneur a dit, on dit merci, mais on va pas exulter de joie comme on devrait exulter de joie. Et ils avaient cette habitude, en fait, les personnes à l'époque, de pouvoir, en fait, même David, chanter devant l'Éternel, Seigneur, on a remporté la victoire, ben on va faire une grande fête, quoi. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop cette habitude, on est un petit peu timoré, on ne veut pas blesser souvent, on dit oui, c'est vrai que j'ai eu un bienfait dans ma vie, mais bon, il y a d'autres personnes qui souffrent. Mais non, mais le Seigneur vous a accordé un bienfait, donc je pense que ça va être une motivation aussi pour nous de pouvoir également, en fait, le dire, et puis dire à nos frères et sœurs, ça va arriver aussi, ta bénédiction. Et elle s'adresse aussi à toute personne de tout public également. Elle dit, mais vous qui siégez, en fait, sur des tapis, vous qui marchez sur les routes, eh bien, elle leur dit, merci, chantez à l'Éternel, parce que le Seigneur a fait de grandes choses. Et je voudrais vraiment vous inviter à avoir ce même cœur que Déborah, hein, finalement, de pouvoir aussi louer le Seigneur pour ses bienfaits, hein, pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fera encore. Parce qu'on sait que notre Seigneur agit, hein, donc on peut déjà le louer en avance, quoi, pour ce qu'il va faire, hein, parce qu'il fait, il fait toutes choses bonnes à merveille. Voilà, donc que nous puissions avoir ce même cœur que Déborah, et puis nous verrons, nous aurons les mêmes victoires, même au-delà de ce qu'ils ont vécu. Amen. Chanterai gloire à l'Éternel, chanterai en l'honneur de son nom. J'ai de meilleur. Éternel Dieu, que vraiment tu puisses régner en nous, Seigneur. Ô Jésus, est-ce que nous pouvons chanter ce chant? Règne en moi, Seigneur. Roi puissant, règne en moi.
Règne en moi, roi puissant, règne en moi.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom, ton de gloire. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir.
Bonjour à tous. Jusqu'ici, nous avons passé un agréable moment dans la présence du Seigneur et nous le prions que maintenant par sa parole, qu'il nous conduise encore dans cette présence qui nous fait du bien. Je vais prier. Mon Dieu, mon Père, merci pour ce temps. Tu nous as permis de faire monter vers toi nos cris de reconnaissance. Nous sommes contents parce que tu nous as sauvés. Nous sommes heureux parce que tu as fait de nous les gens de ta famille et des héritiers de ton royaume. Là où nous ne méritions rien, là où nous étions perdus, toi tu es venu nous racheter, nous sortir, Seigneur, des ténèbres et nous faire passer dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Et tu nous as lavés, tu nous as habillés afin que nous soyons avec toi dans ton royaume. Et Seigneur, nous sommes là, nous attendons ton retour, mais dans cette attente, nous voulons encore recevoir de toi par ton esprit. Alors s'il te plaît, ce matin, conduis-nous encore par ton esprit. Conduis-nous dans ta vérité, dans la vérité qui est, que tu es, et donne-nous encore à grandir, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Alors le thème de, comme vous pouvez lire ce matin, sera la croissance spirituelle. Croissance spirituelle. C'est vrai que, on va se dire, ça déroge un peu de la suite qu'on a eue pendant quelques temps sur la joie. Mais sur la réflexion que j'ai menée, surtout mercredi dernier avec Eric posait une question. Pourquoi est-il si facile qu'on puisse nous ravir notre joie? Pourquoi les circonstances sont si faciles à venir et viennent comme ça et arrachent cette joie que le Seigneur nous a donnée? Et pourtant, Dieu nous dit, Christ nous a dit, et on l'a vu, je vous donne ma joie, pas comme celle que donne le monde, mais ma joie parfaite. Je vous la donne afin qu'elle soit parfaite en vous. Et ce que Dieu dit, c'est vrai. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Sa joie, elle est parfaite en nous. Mais pourquoi, nous n'arrivons pas à tout le temps garder cette joie? Et c'est là ce que nous allons voir en Éphésiens 4 versets 11 à 16. Juste quelques mots de contexte. Cet écrit vient de l'apôtre Paul, et lorsqu'il écrit, ce qui est magnifique, c'est que Paul est en prison. Et on va se dire, mais tu dis que c'est magnifique d'être en prison. Mais Paul, il écrit et il nous donne cet écrit. Lui, il est en prison. Déjà, il écrit à l'église d'Asie mineure et ce sont des courriers circulaires qui circulent dans la région. Et là, on a mis Éphèse. Certainement, c'est une copie qui nous est arrivée. D'accord? Mais Paul écrit à ces communautés-là pour les fortifier dans leur foi. C'est lui qui leur dit, dans toutes ces épîtres, qu'on appelle les épîtres de la captivité, qui va de Éphésiens, Colossiens, Philippiens, et il y en a un autre que j'oublie, mais Philémon, tous ces écrits-là, il est en prison. Et là, il écrit, et Philippiens 3, je ne sais pas si vous vous rappelez, il dit, mais réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Et là, Paul écrit à des chrétiens qui sont soumis à des persécutions. On est sous Néron et Néron les accuse parce qu'il a fait brûler Rome et il a dit que ce sont les chrétiens qui ont brûlé Rome. Donc on persécute les chrétiens. Les chrétiens subissent des vexations, des injures. Ils sont privés de... On peut leur voler leur terre, en fait. Ils sont privés d'accès au travail. Les conditions sont difficiles pour ces chrétiens-là dans ce premier temps. Et c'est l'apôtre Paul qui est dans sa cellule emprisonné pour Christ. Et c'est ce qu'il dit, moi le prisonnier pour Christ. Voilà la raison, pour Christ. Et l'encourage. Et dans cet épître, on nous dit que l'épître aux Éphésiens, les exégètes nous disent que c'est un peu la pensée la plus mûre de Paul. Lorsque Paul écrit, on voit dans sa pensée, c'est où il est le plus mature. Où il arrive à un stade où, wow, ouais, si plus haut que ça, certainement tu es au ciel. Et là, Paul va encourager ses églises à tenir bon. Donc, dans une première partie, et les écrits de Paul se composent ainsi, lorsque Paul écrit, il y a toujours une partie théologique. Ok? Et cette partie théologique, dans Éphésiens 1, elle va du chapitre 1 au chapitre 3. Et Paul va expliquer ce que Dieu a fait. Et c'est ce que nous avons chanté ce matin. Dieu sauve avec puissance. Et il ne délivre pas comme ça. Paul a chez ça, en fait, chez, pour les Éphésiens. Dieu sauve avec puissance. Il a vaincu la mort. C'est ce qu'on a chanté. Et maintenant, Paul dit que Christ, il est à la droite de Dieu. Dans cette position d'autorité. Au-dessus de toute autorité, de toute principauté. Toutes ces choses lui sont soumises. Et c'est en Christ qu'il a, que Christ a fait cette, en lui-même, que Christ a fait cette nouvelle communauté. Quelle église. Et quelle église est appelée à vivre en Christ, pour Christ et par Christ. Et cette partie, comme à l'accoutumée, il prend une partie plutôt pratique. Et on se situe dans ce côté pratique. La nécessité de vivre cette nouvelle communauté, cette nouvelle vie que Dieu nous donne en Christ, de pouvoir la vivre pleinement. Éphésiens 4. Je vais lire sur ma Bible. Alors je lirai du verset 11 à 16. Et aujourd'hui, on va avoir un focus sur le verset 13, qui pour moi semble être un peu le cœur de ce message. Verset 11. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir le service en vue de la construction du corps du Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. De cette manière, nous ne serons plus des petits enfants ballottés comme des barques par des vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles et entraîner les autres dans l'erreur. Verset 15. Au contraire. En exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour. Sa cohésion et sa forte unité, lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Jusqu'ici. Amen. Alors ce matin, on va voir trois points. Je vais essayer de voir, à partir du texte, ces trois points-là. Croître dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu. Être un homme, une femme éprouvée, ce qu'on appelle un homme, une femme adulte, et spirituellement, j'appuie dessus spirituellement, et manifester la plénitude qui vient du Christ. Alors, notre premier point. Croître dans la force, dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu. Et c'est ça que le verset 13 nous dit. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu. Ce chapitre 4, le verset 1, va nous dire que Paul nous dit, cherchez à préserver l'unité de l'esprit. On a l'unité de l'esprit. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on a cherché, en fait. C'est quelque chose que Dieu nous donne. Cette unité-là nous vient de Dieu. Et là, nous devons la conserver. Ça, c'est notre rôle, la conserver. Elle vient de l'esprit de Dieu. Un même esprit, un même Dieu, un seul baptême. Ok, tout ça, ça vient de Dieu. Et là, Paul, au verset 13, arrive et nous dit, grandissez, nous invite à parvenir ensemble dans l'unité de la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu. Là, c'est une unité que nous devons, l'unité que nous devons chercher. Là, ce n'est plus l'unité que Dieu nous donne, bien que nous sommes en Dieu, en Christ. Mais nous devons faire ces efforts pour chercher, grandir ensemble. Et pour ce faire, Dieu a donné à son Église, comme nous l'avons lu au verset 11, c'est lui qui a fait des dons aux hommes, des dons à l'Église. Il a fait don de ses hommes à l'Église pour que nous puissions parvenir à cette perfection. Dieu a donné les apôtres, il a donné les enseignants, il a donné des prophètes, etc. pour que l'Église puisse grandir. Et là, on parle de la parole de Dieu, de ceux qui ont ce don de la parole de Dieu pour enseigner le peuple de Dieu afin qu'il croisse dans la foi. Et nous remercions Dieu pour ces hommes et ces femmes qui œuvrent parmi nous. Dimanche dernier, le pasteur se réjouissait de pouvoir partir en vacances parce qu'il sait que l'Église, elle est bien gardée. Elle est dans les mains de Dieu, mais Dieu a donné des hommes capables de tenir cette Église, de tenir cette assemblée, de pouvoir, en l'absence d'un pasteur qui est à plein temps, d'avoir d'autres pasteurs qui sont là, qui travaillent aussi. Travailler parmi nous. Donc on veut dire merci à Dieu pour ces hommes et ces femmes qui œuvrent. C'est eux qui nous enseignent. Dieu leur a donné ce don pour pouvoir nous enseigner afin que notre foi ensemble puisse grandir. Quand vous voyez Émile, Émile va inspirer le respect parce que c'est un don de Dieu. Imaginez que je vous donne une voiture. Vous allez prendre soin de la voiture, vous ne l'avez pas achetée. On va prendre soin de la voiture parce que c'est... Mais imaginez que si vous n'aviez pas besoin, vous allez peut-être faire n'importe quoi. Mais si vous en aviez vraiment besoin, à ce moment-là, vous auriez pris toute la mesure du don qui vous est fait. Ces hommes, on n'est pas dans une forme d'idolâtrie, de mettre... Hein, ok? Ce n'est pas ça. Mais dans la nouvelle humanité que Christ a faite en lui, il y a ce don de l'Église et nous avons à respecter ces hommes pour le travail qu'ils font. Il y a aimé, mais nous parlons aussi de Stéphane qui, je suis arrivé dimanche après dimanche, nous conduit dans la louange. La liste n'est pas exhaustive. Il ne faut pas oublier non plus les moniteurs et les monitrices qui le dimanche matin pendant l'école enseignent nos enfants. Et c'est ce qu'on avait vu en février. Enseigne l'enfant depuis son jeune âge. Eux aussi, ils ont ce ministère de la parole auprès des jeunes, auprès des enfants, des plus jeunes, afin qu'ils soient en contact avec la parole de Dieu. Afin que lorsque l'enfant soit grandisse, qu'il devienne aussi apte à accepter Christ dans sa vie. Voilà le but de l'Église. Et Dieu nous donne ces hommes, ces dons, divers dons. Dans d'encouragement, peut-être que tu n'es pas là en train de prêcher ou de... Mais tu as un don d'encouragement, les gens viennent près de toi et... Oui, Dieu t'appelle aussi à encourager dans ce sens-là. Et nous devons dire merci à Dieu pour ces dons qui se manifestent. Et ensemble, nous sommes appelés à grandir dans la foi, grandir dans la parole de Dieu. Parce que c'est là le centre, la parole de Dieu. L'unité de la foi vient de ce que la parole de Dieu dit. Et ensemble, nous grandissons à travers nos différentes... expériences. Mais dire que la foi et la connaissance du Christ restent quelque chose de théorique, ce serait aussi nous mettre le doigt dans l'œil. La parole de Dieu ne reste pas que théorique. Elle se vit. Elle est pratique. Elle se vit au quotidien. C'est dans la vie de tous les jours que je démontre que je suis enfant de Dieu. par mon comportement, par ma manière de penser, par ma manière de faire, de vivre dans ma famille. Ça, c'est ce qu'il développe ensuite un peu plus loin, au travers les chapitres 5 et 6. Quand je vis au travail, dans ma relation avec mon patron, les hommes voient comment je suis, et on voit comment je suis enfant de Dieu. Mais il arrive que la foi soit, elle soit éprouvée. Hein? Qui n'a jamais connu d'épreuve? On est d'accord. Et je crois qu'on est tous logés à la même enseigne, qu'on soit grand ou petit. Qu'on soit grand ou petit, on est tous logés à la même enseigne. On connaît tous des épreuves. On a eu des bacheliers, on a eu des personnes qui ont été au brevet, des examens. C'était beaucoup de travail. Et la preuve, on dit, il faut aller passer une épreuve. Et de cette épreuve-là, lorsque tu as réussi, un Dieu sait. N'est-ce pas? Tiens, il y a toi qui souffre, mais je pense en direct là. Il y a Jesse qui souffre, il y a toute la famille qui souffre parce que Jesse va passer le bac. On voit Eric a pris, mais Eric était plus stressé qu'Erwan. Parce que Erwan aussi souffre, il veut réussir. Mais c'est une épreuve qu'il a. Toutes ces années qu'il a passées à étudier, les 3 années au lycée, il doit mobiliser toutes ces connaissances-là pour le jour J. Mobiliser tout ça pour passer des épreuves. Et là, toute la famille, toute l'église se mobilise parce que il y a une épreuve à passer. Nous sommes comme ça. La vie ressemble un peu à ces différents examens qu'on fait. Et c'est l'apôtre Paul. On dit, mais qu'est-ce qui est affiché? L'apôtre Pierre, qui lui aussi écrit dans ses circonstances. L'apôtre Pierre qui écrit aussi dans ses circonstances, qui dit, mais, 1 Pierre 1, verset 6 à 7. On l'avait vu hier, la semaine dernière en introduction de la louange. Je veux revenir dessus. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Pourtant votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange et gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Plus loin, il dit au chapitre 4, versets 12 à 14. Mes chers amis, ne soyez pas surpris d'avoir été plongés dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous. Car vous participez aux souffrances de Christ afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Jusqu'ici. On va lire jusqu'ici. Voilà quelque chose qui est... Notre société ne veut pas qu'on... Hein? Si tu es éprouvé, il faut... Mais Dieu, dans la nouvelle humanité, dans cette nouvelle communauté que Christ a fait en lui, il te demande de regarder le monde différemment. De changer les œillères, de changer la vision. Les épreuves par lesquelles nous passons servent à nous faire grandir. Et de ce fait, nous pouvons nous réjouir parce que c'est Dieu qui travaille en nous. Dieu travaille en nous. C'est un moyen. L'épreuve est un moyen de grandir. Et je crois que c'est ça que ces hommes avaient compris. Paul, dans sa prison, je crois que c'est ça qu'il avait compris. Que sa vie, il dit que je regarde tout comme de la boue. Même sa vie, il la regarde comme la boue. À un certain moment, dans sa lettre, il dit il aurait préféré partir, mais il sait que le travail ici-bas n'est pas encore terminé. Donc, il y a ce dualisme dans son corps. Entre partir rejoindre le Seigneur, mais continuer l'œuvre que Dieu lui a donnée. Parce qu'il sait que même s'il souffre ici, il souffre parce que l'Église encore a besoin d'hommes comme lui. D'hommes comme lui pour encourager, parce que le moment n'était pas encore venu pour qu'il parte. Et que Dieu avait besoin encore de lui. Alors mon encouragement ce matin, c'est si nous passons des moments d'épreuve. Premièrement, c'est que Dieu te forme. Et si tu es corrigé, si nous sommes corrigés, c'est que nous sommes fils. C'est la parole qui nous le dit. Si nous sommes corrigés, c'est parce que Dieu nous aime. Et si nous subissons les épreuves, c'est parce que Dieu est en train de faire quelque chose en nous. Pendant l'épreuve, on ne va pas se dire qu'on est schizophrène. Si on te tape, tu ne vas pas dire « Non, tu as mal. Okay? » il faut qu'on soit vrai dans ce qu'on a. Mais au fond, dans notre cœur, il y a cette espérance-là. Et c'est ce que Dieu veut qui grandisse en nous, cette espérance-là, qu'est Christ. Notre union avec Christ, c'est ce qui compte. Dans un temps, ce que je regardais, et Dieu me disait, mais je disais à Dieu, j'étais en train de me plaindre. Je dis, mais pourquoi tu n'as pas encore répondu? Pourquoi tu tardes? Pourquoi les autres, ils y arrivent? Et ça, c'est aussi dans la parole. Alors, je peux parler aussi comme ça à Dieu. Pourquoi ils y arrivent? Pourquoi ils ont ça et moi, je dois trimer pour avoir? Et Dieu, dans son infinie sagesse, par l'Esprit Saint, il y a cette voix qui me redit que, mais tu regardes à la poussière. Alors, tant que tu regarderas à la poussière, tu seras triste. Parce que toutes ces choses sont amenées à disparaître. On a chanté Christ, mon essentiel. Dieu veut être notre essentiel. On va passer à notre deuxième point. Ce qui est en train de se former, toutes ces expériences, tout ce qu'on vit, c'est pour nous amener à une certaine maturité. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes éprouvés. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'une femme? C'est bien quelqu'un qui a de l'expérience, qui sait discerner ce qui est bon et ce qui est mal. Nous voyons ici parmi nous, il y a des jeunes enfants. Un jour, ils seront à notre place. Mais pendant ce laps de temps, ils auront fait des expériences. Ils apprendront à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Ils apprendront à apprendre à faire des choix. Et avec ces choix, ils apprendront aussi à respecter ces engagements. Dieu veut que nous soyons responsables. Et la Bible nous parle de responsabilité. Depuis la Genèse jusqu'à la fin, on a responsabilité. Dieu a demandé à Adam, où es-tu? En Genèse, Genèse 3. Adam s'est caché. Il a été se cacher. Il a entendu Dieu dans le jardin, il a été se cacher. Et Dieu, par ironie, même s'il savait où est-ce que tu es Adam, il dit, mais où es-tu? Et de la même manière, il nous demande, mais t'es dit, où es-tu? T'es dit, que fais-tu? Et il demande à chaque homme qui ne le connaît pas, il demande, mais que fais-tu? Je te cherche. Mais il t'a créé responsable, il nous a créé responsable pour pouvoir répondre de ce qui nous a été donné. Pourquoi Dieu veut que nous soyons responsables dans son royaume? Est-ce que je peux confier à quelqu'un d'irresponsable une mission? Si vous avez quelqu'un qui s'engage avec vous un temps, et quand ça commence à coincer, quand la chose commence à devenir dans le dur, où vous avez vraiment besoin d'être solidaire, et c'est là qu'il vous dit, je ne suis plus avec toi, je vous lâche là, j'abandonne, c'est bon, je me retire. Dieu veut pouvoir compter sur des hommes et des femmes qui vont jusqu'au bout. Dieu veut pouvoir compter sur des hommes et des femmes qui vont jusqu'au bout. En Christ, nous devenons des jusqu'au boutistes. Nous sommes appelés à devenir des jusqu'au boutistes. Persévérance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La persévérance est la marque de l'enfant de Dieu. De nombreux passages, comme on a vu, nous exhortent à grandir. Mais aussi on voit de nombreuses exhortations. quand Hébreux 5, 12 à 14, nous parle de, me dit, mais l'auteur dit à ses lecteurs, mais à ce moment-là, mais vous devriez être des maîtres. Vous devriez pouvoir, vous devriez être capable de pouvoir enseigner ces choses. Mais là, maintenant, mais vous êtes encore au stade du lait. Imaginez que vous ayez un enfant. On revient encore sur les enfants. Christ même a pris les enfants souvent comme exemple. Imaginez qu'on a un enfant. À sa naissance, ok. Mais si vous voyez que 10 ans après, il a la même taille, vous êtes en train, 10 ans, vous lui donnez encore la tétée? Non. Il y a un problème. Il y a un problème. Au départ, nous devons aspirer à ce lait spirituel, à la conversion, et c'est ce que Pierre nous dit, de Pierre 2, aspirer au lait pur de la parole, mais qui nous fait grandir. Mais un stade, nous devons aussi croître. Croître pourquoi? Parce que le verset 14 de notre verset, de notre chapitre 4, nous dit, ainsi vous ne serez plus ballottés comme des enfants. La stabilité. Dieu nous appelle à la stabilité. À être des gens stables dans nos émotions, dans nos pensées. Quand les choses deviennent difficiles, je suis stable parce que je sais que Dieu est là. J'ai besoin de connaître ce Dieu-là dans ce sens-là. Je sais que Dieu est là. Des hommes et des femmes éprouvés à l'image de Job. Job a passé par... Il a connu des épreuves. Hein. Il a même discuté avec Dieu. Et Dieu lui dit, viens, assieds-toi, discutons. Et à la fin, pour que Job puisse dire, j'avais entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Dans cette vision, c'est l'expérience que Job a fait avec Dieu. Quelque chose d'intime. Mais il a dû passer par l'épreuve, lui qui était juste. La parole nous dit qu'il était juste. Alors beaucoup, dans des fausses doctrines, des faux enseignements, on va nous dire que parce que tu souffres, tu as un problème dans ta foi. Parce que tu n'es pas prospère, ben c'est que ta foi est là au problème. Tu ne crois pas au bon Dieu, au fait. Parce qu'on ne voit pas de miracle dans l'assemblée, ben, cherche l'assemblée. Il y a un prophète là-bas. Il y a quelqu'un qui fait des miracles là-bas. Viens chez nous. Et on court après ça. Ballotté par toute forme de doctrine. Je ne dis pas que Dieu n'est pas capable de faire. Attention. Je crois en ce Dieu qui crée à partir de rien. Donc rien ne lui est impossible. Mais il ne veut pas que je sois ballotté par des vents de doctrine pernicieuse, celles qui veulent attirer mon regard sur autre chose que le Christ et le Christ seulement. Ça nous amène sur notre troisième point. Dit quand on est arrivé à ce stade de maturité où Dieu où l'homme, la femme de Dieu est éprouvée mais établie au stade d'adulte, il dit que c'est là que Christ, c'est là que se manifeste la plénitude de Dieu. Comment se manifeste cette plénitude? Déjà dans l'Église, contrairement à ce qu'on pourrait penser, comme je le dis, miracle et tout ça, la plénitude de Dieu dans une Église mature commence par la proclamation de l'Évangile dans toute vérité. On proclame l'évangile dans la vérité. Et c'est ce qui nous est dit dans la suite du chapitre 4. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour. L'Église proclame la vérité. L'Église vit dans l'amour. Les uns les autres, nous ne vivons pas dans l'hypocrisie. Nous nous regardons pas de manière supérieure à l'autre, mais nous faisons en sorte que nous puissions nous édifier les uns les autres, nous aider à aller de l'avant les uns les autres. On ne regarde pas, on a les sentiments qui étaient en Christ. L'humilité qui est le partage de Christ, on a maintenant ces sentiments qui étaient en lui. Le pardon. Celui qui t'a fait mal, tu es capable de lui pardonner. Mais celui aussi à qui tu as fait mal, tu es capable de t'humilier. Voilà que ces choses, ou comment se manifeste la plénitude de Christ. Parce que Christ, ses sentiments étaient en lui. Lorsque nous avons vu Christ marcher, enfin nous avons vu à travers la lecture de la parole, nous voyons Christ marcher. Oui, il a fait des miracles. Mais qu'est-ce qui était plus grand? Ressusciter Lazare, donner à manger à 5000 autres, 4000 hommes, ressusciter le jeune, guérir des malades, ou d'aller à la croix? Qu'est-ce qui était le plus dur? Il dit, il a connu l'obéissance pour connaître la mort de la croix. C'est difficile quand je repense à Christ sur la croix et lorsqu'on lui dit de descendre. Christ était capable de descendre de cette croix. Il était capable de descendre de cette croix. Rien ne pouvait le retenir, mais il a décidé de mourir là. Parce que c'était la volonté de son Père. Comment se manifeste la plénitude de l'Esprit en nous dans la vie de l'Église? C'est par notre soumission et l'attachement à la parole de Dieu. Et c'est à cela que Christ nous appelle. Galates 5 nous dit que 5, 22 à 23. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, on a vu la dernière fois. L'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Dit la loi, ne condamne certes pas toutes ces choses. Le fruit de l'Esprit. Et c'est l'Esprit qui habite ce corps que nous formons. L'Esprit est en nous. Quand vous vous donnez au Seigneur, Dieu vient habiter par son Esprit en nous. Et nous met ensemble afin de former ce corps édifié en Christ, où l'Esprit aussi vit dans l'Église. Et ce que l'Esprit veut manifester, ce sont ces choses. C'est le fruit de l'Esprit. Alors oui, par compassion, Christ pourra faire les miracles. Et nous croyons encore qu'il fait les miracles. Je crois que Christ délivre. Christ délivre. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Mais il ne faut pas laisser non plus ce message là seulement dans la bouche de ceux qui veulent mettre que l'accent dessus, en fait. Parce que Christ n'est pas que ça. Beaucoup ont été délivrés. Les lépreux, sur 10 lépreux, un seul est revenu. Remercié. Où étaient les autres? Alors je peux voir des miracles, des gens tombés dans mon assemblée, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un changement intérieur. Et ce que Christ veut, comment il veut nous édifier, c'est que ces changements soient internes déjà. Et ensuite, par la soumission que nous aurons à la parole de Dieu, à l'obéissance, Dieu fera des miracles dans nos vies. Parce que je ne donnerai pas ma gloire à un homme. Dieu peut t'équiper de tous les dons. Mais si tu n'es pas soumis à sa parole, à la fin, il te dira, retire-toi de moi, toi ouvrier qui commet l'iniquité. Et nous avons besoin de ça, de nous attacher à ça, de nous laisser transformer par l'Esprit. Nous laisser avoir la joie qui vient de l'Esprit de Dieu. En guise de conclusion, on va juste lire la prière de Paul. Une prière de Paul qui est aussi en Éphésiens, à la fin de cette partie théologique, et il dit au chapitre 3, et nous allons faire de cette prière la nôtre, que Dieu fasse son œuvre en nous et que nous puissions grandir, et que dans les épreuves, que nous ayons à cœur de dire que Christ veut que nous puissions grandir et veut nous confier d'autres responsabilités. Dieu nous appelle à de grandes choses. Mais comme Christ, il n'a pas regardé à la souffrance, mais il a regardé à ce qui allait derrière la souffrance, à ce que nous soyons sauvés. Et c'est Dieu nous appelle à ça. Souffrir pour que d'autres aussi puissent entrer dans le royaume. Souffrir pour que nous puissions, c'est une manière de démontrer la sagesse infinie de Dieu. Alors, chapitre 14, 3, verset 14, je lis. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme de modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de sa glorieuse richesse d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Et vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut connaître. Et vous serez ainsi rempli de toute la plénitude de Dieu. Je reprends. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut connaître et vous serez ainsi rempli de toute la plénitude de Dieu. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou nous-mêmes pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Que Dieu bénisse son Église.
Dire encore amen à la parole du Seigneur. Merci, ce message était vraiment très édifiant. Nous voulons nous lever et reprendre un chant ensemble. Chanter gloire à notre Seigneur. Je chanterai gloire à l'Éternel. Reprenons ce chant ensemble.
Oh,
chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Encore une fois. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai
la gloire revienne à notre Seigneur. Merci. Parce que sa parole est encore puissance. Sa parole est esprit et vie. Merci parce que sa parole est vraiment une consolation aussi pour nous. Je voudrais qu'on puisse passer à un autre moment puisque notre culte est arrivé à sa fin. Et je voudrais appeler notre frère, hein, notre jeune frère, Dylan, s'il veut bien. Et je vais appeler aussi Jesse, s'il veut bien aussi passer dans les rangs. Nous allons vous mettre au service pendant cet été.